Bonsoir. Alors, nous accueillons ce soir Christopher Dell, qui est théoricien et musicien, et Christophe Hutin, qui est architecte à Bordeaux. Autour de cet ouvrage, de ce livre « La ville comme partition ouverte » dont vous êtes l'auteur, cette rencontre se joue, comme nous l'avons annoncé avec nos invitations qui vous sont adressées, elle se joue avec une partition précisément ouverte, une performance entre musique et architecture au rythme d'une improvisation sur vibraphone. Je vais présenter rapidement Christophe Hutin et Christopher Dell. Donc, Christopher Dell étudie le vibraphone, la percussion et la composition à Hilversum et Rotterdam de 85 à 88 et 1985 à 1988, puis poursuit ses études à Berklee School of Music. De 1992 à 2000, il travaille comme compositeur indépendant, il vibraphoniste et comme conférencier de l'Académie de musique de Darmstadt. Il joue également dans le trio DRA qui a reçu le Jazz Art Award en 2002. Christopher Dell est à la tête de l'Institut Institute for Improvisation Technology à Berlin depuis 2000 et a été artiste en résidence au Goethe Institut Kolkata de 2007 à 2008. Et de 2008 à 2010, il a été professeur titulaire en théorie urbaine à la chaire de design urbain de l'université Hafen City de Hambourg. En mai 2012, il a obtenu son doctorat à l'université de Duisburg-Essen pour son travail sur l'organisation d'improvisation, la gestion après la fin de la planification. C'est une grande problématique en matière d'architecture et d'aménagement, parce que ce qui, quand même, complique la qualité de certains aménagements, c'est cette pratique de la planification urbaine qui a sévi sans être capable de s'adapter. Et parfois, ça marche encore comme ça, malheureusement. Depuis 2010, il travaille en trio avec Christian Lillinger et Jonas Westergaard. Vous me pardonnez si je prononce mal. Et en 2017, Christophe Dell a été élu à l'Académie des sciences de Rhénanie du nord de Westphalie. Alors, vous avez bien compris, quand on dit qu'il est musicien et théoricien, voilà ce parcours très dense, très riche, en zigzag, le zigzag de Deleuze. Christophe Hutin, donc, qui est architecte bordelais, il est aussi titulaire d'un DEA en physiologie et enseignant à l'ENSAP de Bordeaux depuis 2015. Il a enseigné préalablement à l'école d'architecture de Toulouse. C'est en 1994 qu'il découvre les townships de l'Afrique du Sud. En 2003, donc après cette expérience, il a envie d'être architecte. Et en 2003, grâce à la bourse de l'Envers des villes, qui malheureusement n'existe plus, qui était soutenue et par le ministère de l'Équipement et par la Caisse des dépôts, ça permettait à des jeunes professionnels de se déplacer, d'aller ailleurs et de, par leur propre regard, d'apprendre, évidemment, de prolonger leur formation et de nous apprendre, évidemment, par l'arrière, ce qui ne s'apprenait pas dans les écoles et ce qui était très important à comprendre et à découvrir. Et c'est la pratique inlassable de Christophe encore aujourd'hui, puisqu'il a contribué aussi au projet Constellation en nous faisant le cadeau de belles expériences d'ailleurs et de cette soirée créolisation qui a été une rencontre formidable. Donc, justement, voilà, il a étudié dans le cadre de cette bourse de l'Envers des villes, de l'intérieur cette fois les townships entourant Johannesburg, au travers des regards et réflexions de ceux qui y vivent. Et cela a influencé en profondeur, et cela influence encore, sa pratique et sa compréhension de l'architecture. De retour en France, il crée son agence et conçoit sa première maison avec un budget de 100 000 euros. Et il a l'art d'être sur des projets à petit budget. Il a fait un travail formidable aussi avec Bernard Lubat. Il défend, au travers de ses projets, une approche libre, sensible et très, à la très pragmatique et à la fois très, comment dire, en prise directe, voilà, avec les situations actuelles pour penser et faire l'architecture. Depuis, il livre plusieurs logements individuels et collectifs à Bordeaux et ses alentours. Il a participé à la réflexion, cette matière grise qui avait été conviée par la communauté urbaine à l'époque, aujourd'hui métropole, à l'initiative de Vincent Feltel, c'est 50 000 logements autour des axes de transport en commun avec Frédéric Druot, Anne Lacaton et Jean-Philippe Vassal, lequel Quatuor réalise, dont fait partie Christophe Hutin, la transformation des 530 logements au Grand Parc à Bordeaux pour Aquitanis. Et cette année, il livre la salle des fêtes du Grand Parc à Bordeaux, qui va être inaugurée très prochainement. C'est un projet formidable, c'est un témoignage de l'architecture des années 60 extraordinaire qui avait besoin d'être régénéré, comme on dit. Et il fallait s'y prendre avec doigté. Et par chance, c'est Frédéric Hutin qui a été retenu, qui a gagné le concours. Et c'est donc lui qui livre ce projet. Vous allez voir, ça va vibrer dans de la belle architecture, avec de la belle architecture à la salle des fêtes du Grand Parc. Je voudrais dire, pour revenir sur Christophe, que c'est grâce à cette expérience dans l'Afrique du Sud qu'il a compris que l'architecture était partie prenante d'un projet de vie. Et c'est ça qu'il a décidé d'être architecte. Alors, ce livre de Christophe Dell, qui est magnifique, je vous invite, il est en vente ici par la librairie Mola, qui est d'ailleurs parfaitement, je dirais, designé du point de vue du graphisme avec Rudy Bohr, qu'on pourrait presque dire co-auteur, puisque, voilà, il a vraiment pris à la lettre, c'est le cas de dire, votre travail, votre pensée, et on retrouve, voilà, tout ce travail sur les diagrammes, etc.
Je crois que le livre est aussi une partition.
Exactement. Le livre est aussi une partition. Et dans le travail de Christophe Dell, donc, qui développe sa pensée à travers ce livre, il se réfère à des travaux d'architectes connus, moins connus, et pas que des architectes. Bon, Cédric Price, qui est ingénieur, Hans-Ulrich Obrist, qui est un critique d'art renommé, Isozaki, Georges Brecht, bon, aujourd'hui disparu, John Dewey, c'est comme ça qu'on dit, Dewey. Un théoricien aussi de l'urbanisme et du paysage auquel beaucoup de paysagistes se réfèrent aujourd'hui. Umberto, un autre intellectuel, Derrida, un philosophe, Eisenman, pour revenir à des architectes, je ne vais pas tous les citer, Rem Koolhaas, et parmi ceux-là, Christophe Hutin. Voilà, donc c'est important de le dire parce que voilà, parfois on n'est pas nécessairement connu, mais on est quand même ancré dans une pensée et dans une démarche qui remet en cause sa pratique en permanence. Et tout ça, vous le verrez quand vous achèterez le livre tout à l'heure. Bien voilà, maintenant je vais passer la parole à Christophe.
Merci Francine. Donc merci Arc en Rêve de nous accueillir pour cette rencontre. Merci à la librairie Mola de nous accueillir dans ces lieux autour de ce livre. Je crois que c'était approprié de venir ici. On a parlé tout à l'heure, Francine a évoqué un premier événement qu'on a fait dans le cadre de Constellation qui s'appelait Créolisation. On avait organisé une rencontre entre des gens de Détroit, de Bordeaux, un chorégraphe, danseur, un musicien... native américaine qui venait avec sa compagne et qui dansait. Et donc c'était une rencontre artistique et aussi une rencontre humaine et intellectuelle qui avait donné lieu à cet événement, à ces performances. Et on avait appelé ça créolisation, évidemment, en référence à la pensée des dors glissants. Alors ce soir, c'est pour dire que c'est la version 2. On aurait souhaité accueillir Bernard Lubat aussi pour qu'on puisse créoliser avec lui, mais il n'a pas pu être avec nous. Donc on va le faire tous les deux et pour l'heure à venir. Christopher, pour entrer dans le thème de ce soir directement autour de ton livre, bien sûr, on va parler de ton livre et de la pensée que tu développes dans ce livre. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que tu fais un lien entre la musique et l'architecture. Et donc, on voit bien qu'il y a des possibilités de transfert ou d'apprentissage d'une discipline et puis de transfert d'idées et de méthodes et de pensées et de processus aussi. Donc, si on prend pour faire un petit résumé de ce que je comprends de cette théorie, la musique classique proposée, en fait, l'auteur de l'œuvre en musique classique était un compositeur. Ce compositeur écrivait sur des partitions, sur des notes. Il écrivait une œuvre et ensuite le musicien était donc interprète de cette œuvre. Et puis au XXe siècle, un certain nombre de musiciens, de penseurs, puisque les musiciens peuvent penser aussi, tu en es un exemple, on peut être théoricien musicien, c'est pas qu'on fait les choses à moitié, au contraire, elles se confortent et elles se superposent. Les musiciens ont voulu, je dirais, s'émanciper et intégrer le processus de création autour de la musique. Et donc sont arrivés, en particulier le mouvement, le jazz est arrivé, qui lui, à mon avis, est le mouvement qui a vraiment mis en place ça. Tu cites aussi dans ton livre John Cage, qui a énormément travaillé là-dessus, sur le fait de co-construire avec le musicien l'œuvre, et que ce soit une construction et non pas un produit fini ou une performance arrêtée. Et donc cet aspect performatif de la musique, la question qui est posée, c'est est-ce qu'il existe en architecture ? Quel est l'aspect performatif en architecture ? En architecture, on peut dire, comme c'était le cas dans la musique classique, que l'architecte, finalement, préalablement, conçoit une œuvre architecturale et les utilisateurs, la société, les gens qui en font usage, finalement, se retrouvent cantonnés à une interprétation plus ou moins libérée ou plus ou moins aliénée. Alors, la musique a fait cette révolution au XXe siècle. Est-ce que l'architecture ne l'a pas faite ? Ou est-ce qu'on en est un peu de tous ces principes en architecture ? Et toi, en tant que théoricien, comment tu peux nous éclairer sur ce sujet ? Puisque le sujet, c'est l'opposition entre la planification et l'improvisation, finalement. Donc, il faudrait qu'on définisse un peu ce que c'est que l'improvisation et comment elle pourrait s'appliquer en architecture. Je voulais juste lire une phrase de ton livre pour lancer notre débat, qui, à mon avis, dit pas mal de choses. « La confrontation avec ce texte, particulièrement inspirant, ne se relate pas facilement. » Comme l'exprime Christopher Dell lui-même, elle nécessite le courage d'une expérimentation performative qui consiste à dépasser la linéarité et l'approche autoritaire du contrôle par anticipation. Alors l'architecte contrôle par anticipation, mais pas que.
Oui, pour moi c'est important de dire que le thème de l'improvisation, pour moi, c'est pas être contre la planification. C'est une transgression de cette planification. Il y a des aspects différents. Et je commence avec la relation entre architecture et musique. On peut dire que la musique est dynamique et l'architecture est statique parce que là, c'est statique et c'est dur. Et musique, c'est le mouvement. Mais pour moi, c'est important que l'architecture, aussi dans ton travail, a fait un tournement vers l'usage. Et l'usage est une pratique. Et pour moi, c'est une relation entre la pratique d'usage et la pratique de faire musique. Parce qu'on utilise un espace musical ou on utilise un espace architectural. Et c'est l'analyse de cette pratique qui est importante pour moi et centrale. Et dans la musique classique, la pratique n'est pas très intéressante, n'est pas très importante, parce qu'on doit faire ce qui est noté sur le plan. Il faut interpréter le plan. Et on ne fait pas, c'est interdit dans la musique classique de produire de l'espace. Parce que c'est l'auteur qui dit comment ça se fait, le compositeur. Et je crois que à ce moment, en architecture, c'est très encourageant de penser l'espace pas comme un container, comme neutre, mais comme être produit. Et ça se réfère à la théorie de Henri Lefebvre, la production de l'espace. Mais, bon, pour la sociologie, géographie, c'est un truc presque vieil. La production de l'espace, c'est normal, c'est part de discours. Mais pour l'architecture, c'est encore une question, comment transponir cette notion à l'architecture. Qu'est-ce que fait avec cette notion? Et pour ça, je crois qu'il faut penser la production. Il faut penser l'action, il faut penser la pratique. Et pour ça, si la pratique est une performance, comme tu as dit, une performance, ça veut dire qu'il y a une action qui est avec indétermination. L'indéterminé, c'est la constitution de la performance. C'est un événement qu'on ne peut pas planifier. C'est impossible. Et à ce moment-là, l'urbain, c'est la performance. Et c'est pour ça que la planification a beaucoup de problèmes. Et bon, si c'est une performance, c'est important de comprendre comment cette performance se passe. Autrefois, on est une victime de cette performance. Pour moi, la modernité dans l'architecture, c'était une lutte contre le désordre. Le Corbusier, c'est une lutte contre le désordre. Il a peur de désordre. Et après, le postmoderne, le formalisme, c'est une fuite de désordre. On est, oui, il y a du désordre. Bon, ça se passe, c'est pas le problème. Et pour moi, c'est une question de travailler constructivement avec le désordre. Et ça, pour moi, c'est improvisation, mais improvisation dans un certain mode. C'est le mode 2 pour moi, et il y a le mode 1. Et le mode 1 d'improvisation, c'est l'utilisation de cette notion normalement. On dit, il faut que j'improvise parce que c'était mal planifié. C'était passé mal, alors on improvise. Et s'il y a un plan mieux, l'autre fois, on ne doit pas improviser, on peut faire ce qu'on doit faire. Et je crois qu'à ce moment, c'est presque impossible d'obéir au plan. Alors, il y a beaucoup, beaucoup des improvisations mode 1, réparature. Et je crois que le néolibéralisme, il force les improvisations de réparature qui sont vraiment disappointing.
Décevant.
Décevant. Alors, c'est toujours dépressif pour moi d'être un improvisateur dans le mode 1. Je n'ai pas les outils pour être un planifié mieux, un planeur, un compositeur. Et alors, après l'improvisation, il y a un niveau de plan. Et ça, je crois que c'est très important pour l'architecture d'être capable de planifier. Ça, c'est la base d'être fort dans la discipline. Et après, c'est peut-être la cybernétique, la pensée de système dans les années 60. Mais deux niveaux, le plan et la cybernétique, ce sont des modes qui externalisent. On peut être dans le bureau, sauf la réalité, et on fait des représentations et ça, on va. Et après ce niveau, il y a pour moi l'improvisation comme technologie, que c'est une mode qui utilise le plan, mais à une transgression de plan. Et c'est une technique de, qui résiste, résistance contre la, l'externalisation. Il faut être là. Par exemple, le projet de, pour Place Léonard Coq de Lacaton Vassal, c'était un embellissement de place et il était en dehors de leur bureau, il était en place. Mais ça dure, c'est une longue durée, je crois 3 semaines, parce que ça dure. Ce n'est pas possible dans 5 minutes. Non, non, non. Il faut être là, s'exposer comme architecte là. Et après, il trouvait que ce place fonctionne bien. C'est ça. Et pour moi, c'est l'exemple d'être capable, pas seulement d'improviser, mais aussi d'avoir une perspective improvisationnelle, parce que pour lire cette place comme improvisation, il faut une perspective. Il faut être capable de lire l'improvisation. Et ça, c'est pour moi une chose thérapeutique pour tout le monde. Parce que je crois que nous sommes tous des improvisateurs très virtuoses, mais ce n'est pas possible pour nous de lire nos improvisations comme quelque chose qu'on peut vraiment accepter et être fier. Non, c'est toujours « Ah, c'est mal, peut-être demain. » Et dans le, je crois que l'urbain est l'espace d'expérimentation et ce n'est pas un social romanticisme. Parce que maintenant, c'est vraiment une cas de si nous ne sommes pas capables de lire nos improvisations, c'est pas possible de prolonger les démocraties modernes à ce moment-là, parce que autrefois c'est le populisme. Alors c'est vraiment une question très politique. Et nous avons parlé de ça. À ce moment-là, architecture est part d'une construction d'un ordre, d'accès ou non-accès, d'inclusion ou exclusion. Et nous avons parlé, parce que je peux nous parler de la différence entre égalité et équité. C'est exactement aussi ce projet que vous avez fait avec Lacaton Vassal ici, d'avoir social housing, des logements sociaux, mais un luxe. Ah bon, on me dit, c'est élitisme. Non, c'est luxe pour tout. Ça, et c'est la même chose avec le jazz ou jouer des choses complexes et de faire des choses complexes et pas faire des choses simples parce qu'on pourquoi qu'on peut prendre les gens où ils sont et avec la simplicité. Mais c'est une humiliation du public. Et ça se passe tout le temps. Comment dire je te comprends.
Alors, ça veut dire que donc, sur l'aspect performatif de l'architecture, on peut dire que c'est l'usage que les gens vont faire qui permet justement cette inclusion et puis cet aspect performatif au travers de l'usage.
C'est exactement. Ça et c'est une, comme tu as dit, c'est une, vraiment une technique très, très compliquée pour l'architecture de faire l'usage possible et exactement l'usage indéterminé.
Indéterminé. Alors, pour reciter Deleuze, que tu cites beaucoup dans ton livre, il propose de travailler de façon précise et indéterminée. Donc ça, c'est une bonne méthode de travail pour l'architecture, d'être aussi indéterminé. Alors, comment est-ce qu'on est indéterminé en architecture? Est-ce que tu saurais nous le dire? Comment on fait pour être indéterminé en architecture? Dans la mesure où c'est très statique, comment est-ce qu'on pourrait engager le mouvement ou accueillir la vie que l'architecture abrite comme une forme de mouvement dans le processus de création? On parlera après notamment des questions de représentation, de diagrammes.
Oui. Oui, je crois qu'il y a trois aspects de ça. Un aspect d'architecture est de lire l'espace comme improvisation avant faire un design. Alors, avoir une longue temps, une longue durée de recherche. Et ça, je crois que c'est très difficile parce que c'est pas très répandu, c'est pas payé. C'est une question économique. La recherche n'est pas payée, c'est gratis. Et je crois que ça doit changer. Autrefois, la légitimation d'architecture dans le XXe siècle, c'est la solution de la problème. Vous posez un problème, moi, je pose la solution, c'est pas de problème. Mais à ce moment-là, on découvre qu'avec chaque solution, on a 25 nouveaux problèmes. Et ça, c'est important maintenant de demander des questions au problème. Et ça, c'est le cas. Et ça, pour moi, tes projets, c'est exactement ça, prendre le temps pour lire la situation, pour questionner cette situation. Et ça dure longtemps. C'est très compliqué. Et après, c'est une communication avec le client, avec les usagers, de créer un espace d'expérience où on peut transformer. Mais ce n'est pas que l'architecte dit « c'est toi qui dois transformer ». C'est aussi moi. Je dois transformer avec le projet. C'est le projet, de transformer ensemble. Et après, c'est une question dans ce processus de créer des structures architecturales. Et ça, c'est vraiment une chose pas informelle du tout. C'est une question de forme. Mais une forme qui est tourner vers le structurel. Parce que c'est une forme qui est déjà vide avec la téléologie. Ce n'est pas la téléologie de forme. Après, il y a l'action, ça c'est la musique classique. Non. Il y a une forme, mais comme Deleuze a dit, la forme est déjà avec beaucoup, beaucoup de structures. Parce qu'il y a déjà l'usage. Et ça, c'est l'autre phase de recherche. C'est il a seulement la situation ou l'usage d'un bâtiment s'il y a déjà un bâtiment. Ça. Et comprendre le bâtiment comme des structures. Et comment faire? Parce que, par exemple, le projet Tour de prêtre de l'Hackathon Vassal, on ne voit jamais dans les publications le catalogue qu'ils ont fait en avant et le catalogue de recherche de chaque appartement de tour. Il y a un système sériel, structurel, pour comprendre l'usage, mais pas comme socio-romanticisme, ah, il y a d'usage, on est ensemble et toujours heureux. Et déjà. Non, c'est une question structurelle. Comment lire cet usage comme une improvisation technologique qui produit vraiment d'espace et comment faire lire cet espace comme représentation pour des autres ou pour moi dans cette cas, c'est seulement une représentation pour le travail de bureau. Et après, c'est vraiment une représentation de montrer le travail. Par exemple, cette conférence ici, ça c'est pour moi aussi une question d'agir avec l'indétermination, de montrer ça. D'exposer ça pour rendre l'improvisation un savoir, une connaissance. C'est très important. Une connaissance qui est très importante pour les gens parce que si le monde est urbanisé, la ville est notre monde. Ah, mais nous sommes illettrés de notre monde parce que nous ne pouvons pas lire la ville, parce que nous lisons la ville avec des outils d'absolutisme.
Alors, sur la commande en architecture, tu sais, en France, on passe par des concours de marché public avec des phases de concours où on a une esquisse à faire, donc une conception préalable. Donc, un élément finalement de contrôle de la finalité des choses. Donc, pour revenir à ton constat de réponse simpliste à une question qui est posée, donc dans les conditions de cette commande, effectivement, comment est-ce qu'on peut justement faire en sorte que le projet nous amène de façon complexe à ce que la réponse ne soit différente du départ, ce qui n'est pas le cas, puisque souvent, la validité d'un projet d'architecture ou l'aspect professionnel, c'est bien de construire le bâtiment qui correspond à l'image qui a été donnée au préalable, un petit peu comme dans la musique classique. Donc comment est-ce qu'on peut inverser cette tendance et retrouver justement de l'indétermination dans les processus de conception? C'est ça qui est intéressant à voir.
Oui, mais pour moi, c'est difficile de dire comment faire. Je crois à ce moment-là, c'est important d'enregistrer, d'être conscient de cette situation. Parce qu'on ne pense jamais de ça, mais je crois qu'à ce moment-là, c'est une question politique de changer les concours. Parce que c'est la même chose avec l'investissement luxe. Dans la production de logements de luxe, ce sont des renderings, des images, et on vend des images. Et avec des bâtiments ou des espaces, on ne peut user presque rien. C'est vraiment pas utilisable. C'est une chose, comme Deleuze a décrit, néolibéralisme, c'est un régime qui fait invisible le processus à prix de produits. C'est seulement montrer des produits. Et ça, c'est la même architecture, c'est le rendering architecture. Mais aussi avec l'administration publique, c'est la même chose. Ce n'est pas une chose d'investissement, c'est une chose de être capable de lire une forme ouverte et de vraiment être capable de transponer les structures also législatives dans une forme ouverte. Ça, c'est le problème. Parce qu'à ce moment-là, je ne sais pas comment c'est en français, en France, mais en Allemagne, il y a beaucoup de processus de participation. Et toujours, c'est infantilisation, et toujours, c'est une image. Et c'est une animation de donner une image. C'est vraiment pédagogiquement complètement faute parce qu'on dit aux usagers de donner des images. Et après, on peut dire que des images ne sont pas valables, ce n'est pas bon pour l'architecture. Alors, on fait quelque chose de complètement différent. Alors, il faut changer ce processus de participation où on peut vraiment agir ensemble. Ça, c'est aussi nécessaire avec l'administration. Je ne sais pas comment déjà, mais peut-être des concours qui sont des happenings dans cette salle que tu as redesign. Il y a un grand espace sur le sol. Il y a 10 bureaux qui travaillent ensemble et discutent sur place sur ce projet pour poser des questions. Il y a aussi des gens d'administration sans peur. Tout est protégé. Il y a vraiment, c'est important qu'il y a qu'on est protégé, ça, pour pas avoir d'angoisse et pour vraiment poser des questions. C'est une utopie, mais...
Alors, j'ai une proposition peut-être pour ça. Donc, tu as visité tout à l'heure la salle des fêtes qui est donc finie. C'est l'appréciation que l'on peut en faire quand on la visite. En tout cas, c'est du point de vue administratif, on va considérer que nous sommes en finition, que nous avons fini le projet. Bon, tu as pu le voir, c'est plus complexe que ça. En fait, ce qui est intéressant dans l'architecture, peut-être, c'est de proposer des commencements.
Exactement.
Et il faudrait en fait répéter tout le temps des commencements et ne jamais finir les choses. Alors, c'est peut-être une proposition vaine, mais en tout cas, c'est une façon d'appréhender la conception, la création, le processus de création en architecture. Et puis, je crois que c'est le cas de tout le monde. Souvent, on ne finit pas sa maison, parce qu'il faut quand même qu'on puisse s'y projeter, qu'il faut qu'on puisse envisager la suite, son projet de vie. Sinon, on est mort, ça s'arrête. Et donc, pour les bâtiments publics, peut-être ce serait pareil. Aussi, on a discuté ensemble d'un certain nombre de choses, notamment le rôle de l'architecte, où c'est vrai que, par exemple, dans la musique classique, le compositeur va composer une œuvre du début à la fin de façon totale. C'est le cas aujourd'hui pour les bâtiments et pour les aménagements, où on conçoit, on design, on dessine l'ensemble des éléments. Peut-être l'architecte devrait envisager, ou la conception architecturale pourrait engager les projets en considérant que c'est un moment sur une durée beaucoup plus longue. Le projet du GHI au Grand Parc, la salle des fêtes, finalement le projet a été conçu dans les années 60 par des très bons architectes. Je crois qu'on a respecté leurs travaux, on n'a fait que le prolonger. Et pour autant, on ne l'a pas mis par terre ou on n'a pas voulu faire autre chose. On l'a prolongé, on l'a mis à jour, on l'a rendu très contemporain, très actuel, en l'équipant et en lui donnant une nouvelle dimension, en respectant le passé, mais en travaillant sur le moment dans lequel nous nous trouvons, qui laisse énormément de possibilités aux utilisateurs, aux artistes, de s'approprier les espaces et l'outil culturel et technique qu'ils représentent. Alors peut-être ça, c'est une piste de réflexion.
Exactement, c'est une proposition qui est très concrète. Et je crois que là, il y a aussi important de différencier entre improvisation mode 1 et mode 2. Parce que mode 1, on peut dire, ah oui, commencer tous les jours, c'est parce que nous ne pouvons pas vraiment faire d'architecture. On ne prend pas la responsabilité, on est post-moderne, anything goes, on commence tous les jours. Et ça, c'est mode 1. Mais ce que tu proposes, c'est mode 2, c'est vraiment être responsable de ce qu'on fait comme improvisation, avec les conséquences.
Alors souvent, l'improvisation, on peut penser, en tout cas, c'est un point de vue commun, de dire que l'improvisation, finalement, serait... une forme de forme spontanée. Et quelque part, on ferait un peu n'importe quoi, c'est-à-dire ce qu'on nous passe par la tête.
On peut vraiment...
Alors, je ne peux pas en faire la démonstration sur le plan de l'architecture ici, maintenant. Peut-être tu pourrais la faire en musique, juste pour nous montrer qu'il y a une structure et que de cette structure, on réouvre et une partition ouverte permet l'improvisation.
Oui. Alors, bon, peut-être je peux jouer un petit peu. Se demander, est-ce que je peux jouer parce qu'il n'y a pas des partitions là, qu'est-ce que je fais? Parce que peut-être c'est je joue de mémoire, ou, c'est quoi? Et après, je peux expliquer comment je fais ça. Pour moi, c'est pas une... jouer libre, mais jouer comme je appelle ça structurée. Et pour moi, c'est important que le travail de Pierre Boulez, qui a libéré la série de 12 tones, 12 notes, et comment est-ce qu'il a fait ça? Il a réduit le nombre, parce que peut-être quatre notes par cellule. Et ça rend possible de penser cette série relationnelle. C'est le truc de Pierre Boulez, un relationnel concept de cet espace musical. Comment ça se passe? Alors, on peut dire que normalement, ça, c'est le C, mais ce C peut être le 5 de F ou le demi-5 de Fis ou 4 de G ou 3 de As ou mineur 3 de A ou c'est comme ça. Alors, il y a beaucoup, beaucoup de nombres avec une seule note. Mais cette note, c'est aussi possible de transponer cette note topologiquement, comme il a démontré Bach. Alors, c'est important de travailler structurellement dans la transposition des structures relationnelles. Alors, je prends peut-être une minimale structure, c'est cette, et j'interprète ça comme... Ça, c'est mon note centrale, mon 1, c'est G. Alors, c'est 3, c'est H, et D, c'est 5, et As, c'est le mineur 2. Alors, je prends ça, et après, je transpose ça. Pour exemple, quand je pratique à la maison, parce que normalement, on dit qu'il ne faut pas... pratiquer l'improvisation, ben c'est l'inverse. Alors, je fais ça. C'est le normal cercle qu'on connaît harmoniquement. Alors, c'est... transponer comme Coltrane dans les mineurs 3. Pour exemple. Et après, je peux, après une demi-jour, de faire ça dans toutes les possibilités, et je peux improviser. Parce que peut-être comme ça. Comme j'ai dit avec Pierre Boulez, c'est important que c'est plus petit. J'appelle la structure minimale. Et c'est important d'avoir des structures vraiment minimales pour improviser complexe. Si la forme est trop complexe, c'est impossible de vraiment improviser. Et pourquoi je aussi, à ce moment, on a de l'architecture qui est très très complexe et c'est pas possible d'improviser avec ça. Et peut-être je peux te demander comment est-ce que tu travailles avec la structure minimale dans tes projets.
Eh bien, effectivement, on peut rechercher une grande économie de moyens en faisant des structures très rationnelles qui peuvent justement derrière offrir une grande liberté de possibilités et d'interprétation dans les usages et dans les affectations, dans les agencements, dans la façon dont l'architecture va se développer. Et alors pour rebondir là-dessus, je mettais une image à l'écran, une image d'Herzberger qui nous dit compétence des structures, performance des habitants. Donc cette image, elle démontre un peu, enfin, elle évoque ce que tu viens de nous expliquer.
En même temps, les années 60, Herzberger et Pierre Boulez, oui.
Oui. Mais c'est bizarre, on dirait qu'ils n'ont pas existé. Et alors donc aujourd'hui, si on parle de ça, je pense que Lacaton Vassal sont clairement dans cette démarche, puisque on sait bien que d'ailleurs Herzberger apprécie leur travail, il a pu le dire à plusieurs reprises. Donc je voudrais te parler du mouvement dans l'architecture et de la façon dont on la représente. Et la façon dont l'architecture est enseignée aujourd'hui, par exemple, l'art est toujours abordé comme une question de représentation, c'est-à-dire le croquis perspectif, les plans, les coupes, les documents classiques de l'architecture représentent un objet très statique. On l'a dit tout à l'heure, un objet construit statique. Donc le mouvement n'est pas pris en compte. Je reviens à Deleuze sur le cinéma, qui nous parlait des blocs image-temps, où on est passé de la photo, d'une image fixe, à une image en mouvement, qui a apporté le cinéma. Et donc ce mouvement est arrivé dans la conception, dans l'image, en architecture. On est encore sur des modes de représentation, on appelle ça la représentation, qui est extrêmement figée, puisqu'elle représente une image ou un moment totalement statique. Pour autant, l'aspect performatif de la ville, lorsqu'on est en ville, je ne sais pas, lorsqu'on est gare Montparnasse, on voit bien des milliers de gens qui se déplacent, et des mouvements complexes qui se superposent du matin au soir. Et tout ça est un mouvement, en fait, une somme de mouvements que l'architecture accueille. Et pourtant, on conçoit l'architecture avec des documents statiques. Alors, est-ce que c'est ça que tu appelles l'approche diagrammatique? Et comment est-ce qu'on pourrait aborder la question du mouvement dans l'architecture, dans la fabrication de la ville, autrement que par des plans, des coupes et des croquis perspectifs?
Pour moi, c'est... J'ai trouvé cet aspect dans mon recherche, parce que j'étais toujours intéressé aux notations. Et c'était pour moi une cas extraordinaire, comment, parce que, pour exemple, Morton Feldman, John Cage et Earl Brown ont ouvert l'espace musical avec leurs représentations, qui sont quand même des représentations, mais représentations dans une mode vraiment différente que le mode classique. Et comment ça s'opère, comment ça se fonctionne. C'était intéressant pour moi. Et j'ai découvert, après pendant que j'ai étudié les représentations de Rem Koolhaas ou de Atelier Bauhaus ou de Lacaton Vassal, Lacaton Vassal ont vraiment refusé de représenter au début pour ne pas fermer le processus. Et maintenant, il y a une... Par exemple, pour le projet de 50 000 logements, pour ce projet, alors ils ont commencé, aussi avec toi, de commencer de représenter. Et à ce moment-là, il n'y a pas une forme. Il n'y a pas une forme fixe pour faire ça. Il y a déjà une recherche. Et je peux seulement travailler sur les critères ou les modes, comment ça se fait. Et pour moi, la diagrammatique peut expliquer cette mode, parce que la diagrammatique, ce n'est pas une image, ce n'est pas un texte, c'est entre image et texte. Diagramme, dia, c'est grec, c'est entre, et une grammaire, une graphique, une inscription qui est une trace qu'il faut activer. Ce n'est pas un container de connaissances où on trouve la connaissance qui est déjà là. Non, c'est une structure qui doit être activée soi-même si on travaille avec des diagrammes. Et les diagrammes, comme on dit Charles Sanders Peirce, c'est une représentation, mais il représente pas comme une image qui veut être au ensemble le référent. Non, la relation entre le diagramme comme signe et le référent, l'objet qui est représenté, c'est une référence structurelle, seulement structurelle. Et ça, c'est la même chose pour beaucoup des partitions de gestes. Partitions de gestes sont très minimales c'est impossible. Quand j'étais jeune, j'ai étudié beaucoup classique musique en Allemagne, c'est normal. Alors, j'ai essayé de jouer du jazz. J'ai acheté des partitions et j'ai joué et c'était impossible. Pas possible du tout. Il faut activer et ça dure très longtemps, presque plus long que jouer musique classique, d'être capable d'activer cet espace. Et ce n'est pas une chose de ne peut pas être capable de faire quelque chose, mais c'est une transgression, c'est une composition en démarche, on peut dire. Et pour moi, cette tâche est une tâche très importante à ce moment-là. Et un aspect est l'achèvement de cette diagrammatique comme œuvre, mais c'est aussi de transponer cette diagrammatique comme une capacité de lire un diagramme et être affecté par le diagramme. Autrefois, on dit on se clôt, d'ouvrir ça. Et troisième aspect, de pratiquer diagrammatiquement, c'était une activité relationnelle, d'être capable, si on est en processus, de lire un espace en relation des actions, des acteurs, des choses, des discours législatifs, des imaginaires qui sont tous dans cette situation, de lire ça, de déconstruire, de défragmenter ça, ou fragmenter pour refragmenter, pour réassembler. Et also, c'est aussi un processus pas créatif du tout. On peut se libérer de terreur de créativité et on peut seulement utiliser ce qui est là et réassembler avec des petites additions ou comme tu as fait avec cette salle, avec soustraction. C'est aussi une chose très, très importante là. Et ce sont des trois aspects. Et après, le quatrième aspect, de créer des situations qui font des actions diagrammatiques possibles. Et peut-être nous pouvons voir des images que tu as faites à Hanoï pour exemplifier cette question.
Alors, c'est vrai qu'on peut regarder ces images d'Hanoï qui, je pense, traitent de ce sujet, de la compétence des structures et d'une forme de partition ouverte où les habitants peuvent exprimer un aspect performatif.
Exactement. Pour moi, c'est important, comme ton première image de Assoveto, qui à Johannesburg, qui a inspiré ton travail. Aussi, c'est important de lire ces images, pas comme images, mais comme diagrammes.
Exactement. Ce n'est pas un sujet de, c'est pas un document de représentation, c'est un document qui peut engager un processus de conception et de réflexion sur l'architecture et sur ce qu'on peut engager, par exemple, avec les habitants de ces immeubles qui, visiblement, ont une compétence et une appétence à faire de l'architecture. C'est ça qu'on peut dire. Alors, ce qu'on peut dire aussi, en fait, je rentre juste du Vietnam où je viens de faire ce travail photographique, de relever des extensions des habitants sur leurs immeubles. En fait, ils ont fait depuis 30 ans ce qu'on a voulu faire au Grand Parc, sauf que c'est beaucoup plus beau, puisque c'est fait par les gens eux-mêmes, et donc ça exprime une forme d'hétérogénéité que l'architecture a du mal à atteindre. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il s'agit d'immeubles issus de l'Allemagne de l'Est, de RDA, donc de ton territoire aujourd'hui réunifié. Et donc ces modèles soviétiques ont été importés de 1950 à 1980 au Vietnam. Et puis immédiatement, une culture populaire s'est construite sur ces immeubles, de les transformer, de les agrandir au cas par cas, rajouter une chambre, rajouter une salle de bain, rajouter une pièce, tout ce qui manque. Et finalement, ce qu'on voit, c'est que ces immeubles, aussi raides étaient-ils, aussi rigides pouvaient-ils être dans leur forme originelle, finalement, ils étaient très bien conçus, puisqu'ils démontrent que sur la question de la partition ouverte, ils ont la capacité à être agrandis et à être transformés par leurs habitants. Ce qui n'est pas le cas de certaines formes compliquées que l'architecture produit aujourd'hui, où on voit bien que les transformations ne seront pas possibles par la suite. C'est-à-dire qu'ici, on voit bien que c'est la démonstration que l'architecture est un work in progress et que le concepteur pourrait prendre ça en compte comme étant un développement ou une action possible sur la conception d'un projet. Le projet ne s'arrête pas à la conception et au chantier tenu par l'architecte. Il y a bien une vie et un processus ouvert. Et je crois que c'est ça que tu appelles la partition ouverte que j'ai pu rencontrer dans cette situation à Hanoï. On voit bien qu'ici, on a une improvisation de la part des habitants importante. Je m'arrête sur cette image aussi. Elle m'intéresse puisque je voudrais dire qu'à ma grande surprise, je ne m'attendais pas à trouver autant d'individualité et de liberté dans l'architecture dans un pays à l'idéologie communiste. Ici, la pensée est collectiviste et pourtant, la pensée collectiviste, par un laisser-faire, par une forme d'appropriation des citoyens, une forme de démocratie finalement, les immeubles sont totalement transformés. Ce qu'on voit ici en second plan, c'est la promotion immobilière néolibérale actuelle qui est universelle et que l'on voit partout et qui pourtant est fondée sur un principe de liberté puisqu'elle est libérale.
Et ça montre la puissance biopolitique d'architecture.
Il me semble. En tout cas, on voit bien que l'architecture du second plan, à mon avis, à court terme, n'aura pas vocation à être transformée. En tout cas, c'est pas son objet, quoi. Donc c'est tout à fait étonnant de voir cette confrontation de deux idéologies et qui, au final, produisent un résultat qui est à l'encontre des a priori que je pouvais avoir. Bon, l'aspect performatif. Une dernière question que j'ai envie de te poser sur la forme de ce livre, sur l'édition, avec Rudy Bord et Civic City, puisqu'il y a même un membre ici du Civic City, Benjamin Ribot. Et donc je vais poser la question qu'il voudrait poser, je suis sûr. C'est un livre très complexe, à l'image de ta pensée. C'est difficile de rentrer dedans, et on est dans une partition ouverte aussi dans la fabrication de l'objet de cette publication. Tu peux nous en dire quelques mots ?
Oui, ce livre, c'était une commission de Rudy. Parce que j'ai donné une conférence à son atelier. Et après, il a dit, oh, il est intéressé de ce thème. Si je peux faire un livre, alors je le fais. Et après, il a essayé, et je crois qu'il est vraiment... c'est vraiment un he succeeded. What does it? Excité de le faire, de faire une autre transposition, une troisième, parce que moi je fais une transposition entre une architecture qui cherche le processus et penser l'architecture qui fait la recherche sur le processus dans une perspective d'une pensée musicale de l'espace comme une activité, comme espace comme activité avec indétermination, et la constructivité dans cet désordre. Et après, Rudy a transposé ce thème dans le livre, dans l'espace appelle ça l'espace de représentation. Espace de représentation. Et à ce moment-là, pour architecture, c'est pas seulement un cas de changer l'espace réel, mais aussi changer l'espace de représentation. Et ça, c'était aussi une initiative de Rudy, d'essayer de faire ça. Et pour ça, on peut dire que ce n'est pas un livre. Oh, est-ce que c'est un livre? On ne sait pas. C'est une partition, c'est une notation, mais c'est aussi un livre parce que nous sommes ici dans une librairie. Alors, c'est une question, que faire avec les livres? Et je crois que c'est important que c'est un espace comme un livre et pas comme une vidéo, pas comme un YouTube, pas comme une virtualité, mais un espace qu'on peut approprier avec un temps très souple, très long. Alors, ça, je crois que ça, c'est le thème d'ouvrir l'espace de représentation avec ce design.
Je voudrais juste remercier Christopher ce soir de nous avoir parlé en français, d'avoir fait cet effort-là sur le plan du langage. Ce n'est pas simple d'expliquer ta pensée en français dans une langue étrangère pour toi. C'était vraiment un exercice.
Merci à vous d'être patient comme ça avec mon français.
Et donc, je crois que c'était une première expérience pour nous de ce qu'on a fait ce soir. On l'a bien raté, et je crois que la prochaine fois, on le ratera encore mieux. C'est ce qu'on va se donner comme objectif. Et je voudrais juste dire, après avoir remercié tout le monde, je voudrais avoir un petit message pour mon fidèle compagnon de route et ami Marion, qui travaille avec moi, qui a eu un accident avant-hier. Je lui souhaite un bon rétablissement, et voilà, donc j'ai une pensée pour elle.
Et moi, je voudrais remercier Denis Mola, qui est le président d'Arc en Rêve, mais qui est aussi... l'inventeur de ce lieu, Station Ozone, qui est un lieu ouvert et qui est ouvert à de multiples propositions avec des variables à l'infini et qui vit justement et qui vibre avec des usages, voilà, toujours denses et riches de culture et de pensée. Voilà, merci beaucoup de nous avoir accueillis ce soir.